Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bienvenue à tous dans Univox, piloté cette semaine par Radio Dijon Campus. Durant toute cette émission, nous allons vous proposer de vous intéresser à la langue française. Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, nous avons tourné un certain nombre d'émissions spéciales, émissions musicales, émissions sciences sociales également et politiques, tout un programme que vous pouvez retrouver sur le site sofrench.campusplus.fr. Aujourd'hui, extrait de ces nombreuses interviews, de la musique avec La Souterraine et le groupe Aqua Serge, un peu d'exotisme lointain, le français au Québec, et on terminera avec une analyse du discours politique. Mais on démarre tout de suite avec l'excellent site, blog, label La Souterraine, rencontre avec Benjamin Cachera, une des deux têtes pensantes de ce combo souterrain. On l'a d'abord et avant tout interrogé sur leur choix bien senti d'exhumer des artistes chantant en français. Évidence, difficulté, simplicité ou... déjà, grâce à eux, le français est so cool.
Encore maintenant, c'est tout à fait minoritaire, un groupe de rock ou même un groupe de pop qui chante en français, un groupe français qui chante en français. C'est assez paradoxal, mais c'est toujours minoritaire, donc on a pris ce parti-là du minoritaire.
Et c'était à peu près en 2012, c'est ça que vous avez commencé?
C'est fin 2012, début 2013. Le volume 1 est mis en ligne début 2013, janvier. Et la première compile qu'on a mis dans un truc qui n'existait, qui n'était pas encore La Souterraine, c'est une mixtape d'Aqua Serge.
Tu dis on a pris le parti côté minoritaire, mais il y a plein d'autres côtés minoritaires. Tu pourrais choisir une esthétique encore plus barrée, un truc comme ça.
C'est à la fois minoritaire et universel, en fait. Si tu veux, il y a justement le but de ne pas s'enfermer dans un truc qui soit... c'est une grille de lecture qui est un peu différente de celle que tu as sur le garage ou sur l'électro ou sur la new wave ou je sais pas quoi. C'est d'observer la chose d'un point de vue différent, c'est juste le francophone ou l'anglophone, et donc on choisit le francophone, voilà.
Pourquoi c'est minoritaire en fait?
Pourquoi c'est minoritaire? Parce que le marché est anglo-saxon.
Où on peut renverser la question, et les groupes que vous choisissez, est-ce qu'ils vous disent pourquoi ils ont préféré le français à l'anglais, à l'allemand, ou je sais pas?
Bah, des groupes français qui chantent en français, ça fait sens, quoi. C'est tout. c'est Julien Barbagallo qui disait que chanter en anglais pour un groupe français, c'est une mascarade, quoi. Et là, c'est la fin de la mascarade, en gros.
Mais en même temps, la question que tu poses, elle fait sens pendant assez longtemps. Alors sûrement à tard, et même encore aujourd'hui, il y a un côté ringos à chanter en français. Parce que justement, la pop, tout ça, ça vient en Angleterre. Moi, j'ai l'impression que grâce à votre travail, grâce aux artistes hein, d'abord, mais grâce à... vous dépoussiérez ce côté un peu vieillot. C'est aussi ça, vous avez l'impression de faire œuvre de ça un peu?
Complètement, il y a ce terme de avant ringardiste en fait. Voilà, tu dis ringardos, pas ringardos. Voilà.
et ça a été dur dans les premiers temps, lorsque vous avez posé ça, alors à l'univers professionnel, de dire mais non, c'est pas du tout ringue.
Ça a jamais été difficile en fait. Ouais. C'est juste, c'est tellement inexistant et invisible que chaque étape, chaque nouveau téléchargement, c'était une victoire en tout cas. Donc non, il n'y a pas de difficulté, il y a des gens qui petit à petit s'y mettent aussi. C'est le jeu de l'influence en fait, tu ne peux pas le mesurer, si on peut le mesurer au nombre de téléchargements, au nombre d'écoutes, etc. Mais c'est tout un long process d'infiltration des mentalités. Mais justement, il y a des groupes qui chantaient qu'en anglais, à qui on suggère de chanter en français par exemple, sur un titre pour expérimenter... pour eux, faire une reprise, et finalement, ils twistent définitivement, ils chantent qu'en français après.
Et là, toi, tu dis gagner? Ou tu dis, c'est comme ça hein.
Je dis chouette, ouais.
Ouais, quand même.
Ouais, bah, parce que, enfin, je suis assez d'accord avec ce postulat, un groupe français qui chante en anglais, c'est le... Je, pour citer à quoi sert, je mettrais domination colonialiste, quoi. Alors,
Tiens, français, pas français. Tu disais, c'est ridicule, les groupes français qui chantent en anglais. Mm-hmm. Pourtant, il y a une longue série, tradition, alors peut-être pas longue, mais il y a quelques groupes qui ont réussi. Je pense à un en particulier, par exemple, t'as les Tugs. Qui ont réussi. Vous les placez où, vous, Souterraine, quelque part, nulle part, ailleurs?
Je les place pas. Je connais assez mal les Tugs et ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps d'écouter. Non, si je connais un petit peu, mais
ou les Dogs.
Ouais, tu même vois, chose. En fait, ça m'intéresse pas. Vraiment. Je veux pas casser ton effet. Campus
92.2. On reste dans ce univox autour de la langue française avec la famille musicale de la Souterraine. Vous venez d'entendre Benjamin, l'un des deux boss de la Souterraine. Eh bien, voici un groupe toujours porté et soutenu par la Souterraine, Aquaserge, que nous avions rencontré le même jour à l'occasion de la sortie de leur cinquième et nouvel album Laisse-être à la Maroquinerie. Interview à la cool après les balances de Benjamin Glibert, guitare chant, et Sébastien Cirato, trompette et percu. Et on est maintenant avec Aquaserge, toujours dans cette thématique francophone. Si je m'intéresse au dernier album que vous venez de sortir, ça tombe bien, messieurs, j'ai l'impression que, comme jamais, vous chantez en français et vous utilisez la langue un peu moins comme un instrument.
Mais moi, je me rends pas bien compte parce que nous, c'est notre cinquième disque et j'ai l'impression qu'on a toujours fait ça, de chanter en français. Je sais pas si on chante plus là ou... Mais en tout cas, effectivement, on utilise la voix à la fois comme un instrument, pas comme un instrument au-dessus du reste de l'orchestre. Ça fait partie du... Donc avec des apparitions... À certains moments, c'est pas la voix tout le temps, c'est pas des structures classiques de couplet-refrain. Pour l'album À l'amitié, l'album d'avant, là on s'était dit on va faire plus des chansons avec un chanteur lead qui était Julien Gasque. Donc où on essayait de mettre sa voix plus en avant, moins de chœur. Et là on est revenu à un truc plus chanté à plusieurs, en chœur, à trois ou à quatre. Mais peut-être que ça chante plus. Ouais.
C'est aussi drôle de parler pour l'instant... chanson avec vous, dans la mesure où vous êtes quand même dans une formule d'abord et avant tout musicale, à partir dans tous les sens. Alors j'essaye de me rattacher un peu à la thématique francophone. J'en trouve une et c'est à vous de me dire, vous y compris dans vos bios et quand on lit des articles qui essayent de parler de votre musique, il y a des liens avec des artistes allemands, avec du krautrock, avec des choses jazz. Il y a une filiation qui peut exister aussi avec tout ce qui était le rock progressif des années 60-70 en France, avec des groupes, je ne veux pas me tromper dans les noms, mais Étronfou, Le Loup Blanc, voire des gongs, des barricades, des gens comme ça. Est-ce que c'est une tradition dans laquelle vous pensez vous inscrire?
Ouais, je pense que oui, mais également la musique anglo-saxonne, c'est vraiment ce... Je crois qu'on n'a jamais eu l'impression de faire de la chanson française, par exemple. Donc oui, c'est toute cette période là qu'on essaie de continuer, en fait, de continuer ce qui avait été commencé dans ces années-là, qui, on avait l'impression à l'époque quand on a commencé, a été un peu oublié ou en tout cas mis de côté dans les productions de ce qui se faisait dans les années 2000, quoi. Et ouais, c'était l'idée de continuer l'école de Canterbury, des trucs comme ça, et le côté français aussi, jouer avec les mots, trouver des façons de chanter en français. C'est chaque fois une gageure d'arriver à jouer sur de la musique qu'on appelle anglo-saxonne, mais de chanter en français, trouver les paroles, les sons qui vont...
Alors justement, c'est compliqué ou pas? Est-ce que c'est une musique qui est taillée pour une langue comme le français?
Il faut chercher pour chaque chanson, il faut chercher qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter, comment on va le chanter, comment on va l'écrire. Donc on fait aussi des sessions d'écriture. On écrit pour cet album, on était trois souvent. On avait commencé en studio à avoir des idées, à jeter des pistes comme ça. Après, on s'est mis vraiment à écrire ensemble, à trouver l'histoire qu'on allait raconter, la façon de l'écrire. ça peut pas se faire comme ça, quoi. C'est toujours une recherche. Et puis les voix arrivent à la fin aussi, à la fin du processus, donc il faut que ça rentre dans la...
C'est aussi un travail qui se fait au studio, c'est-à-dire que l'écriture de la voix et des instruments, elle se fait aussi parce que il y a des possibilités d'enregistrement, il y a des possibilités de mixage, comme de mettre des voix en stéréo qui se répondent ou des choses comme ça. Il y a toujours un jeu aussi, aussi sur la production. Et... Donc c'est des processus assez longs en fait d'écriture.
Et est-ce que vous avez déjà essayé d'écrire des paroles en anglais ?
On avait fait une chanson en anglais sur le premier disque, je crois. Mais au final, on n'a jamais vraiment voulu faire ça. Premièrement, on écrit à plusieurs, donc il faut qu'on soit tous... c'est quand même plus simple de discuter
en français,
dans une langue qui est la nôtre. Et même pour chanter les mots qu'on a envie de chanter, il faut que ça soit... Je pense qu'on y fera toujours. Après, peut-être qu'on va s'amuser, maintenant que le français devient un peu... Chanter en français devient un peu une institution. Peut-être qu'on va faire un disque en turc ou en italien, mais peut-être pas en anglais.
Parce que le français deviendrait trop mainstream, en fait, c'est ça ?
Non, mais c'est toujours... c'est toujours... non, mais oui, mais ça peut être ça. C'est toujours plus excitant quand tu vas dans des endroits où on t'attend pas, où il y a tout à faire. Enfin, pour nous. Pour les Turcs, ils chantent en turc, c'est très bien.
À quoi Serge en musique ? Après les avoir entendus en interview, Univox s'intéresse à la production française. Vous avez bien compris que la langue française, pour nous, est un alibi pour tirer un fil autour de la thématique So French. Le français, quand même, est malgré tout, dans la semaine de la langue française et de la francophonie 18 au 26 mars, c'est le français parlé à l'étranger. Allons faire un tour chez nos cousins du Québec. Quelle place occupe encore le français aujourd'hui ? Actualité et histoire en compagnie d'un fin connaisseur, un des responsables de Québec le Mag.
Radio Campus 92.2.
Et on reçoit maintenant David Lang, journaliste spécialisé sur le Québec, rédacteur en chef de Québec le Mag. 44 voyages au Québec, au Canada, au compteur. Bonjour David.
Bonjour Martial.
Avec Fabrice, on va forcément parler Bonjour. De la langue et du pays, puisque dans cette semaine So French, il nous a semblé évident de nous poser la question des fameux cousins québécois. Est-ce qu'ils sont aussi Frenchies que ça ? Alors franco, même, devrait-on dire. Comme ça, là, David, quel rapport vraiment entretiennent les populations québécoises avec cette langue ? Alors peut-être la population, pour la langue française, il y a vraiment un lien particulier ou c'est une image d'Épinal ?
Il y a un lien qui est un peu plus que particulier, qui est vraiment central, puisque la langue française, c'est un élément, on va dire, constitutif de l'identité québécoise et du fait francophone en Amérique du Nord. Et c'est un enjeu vraiment central à tous les niveaux, au niveau culturel, au niveau sociétal, au niveau institutionnel. La langue française au Québec, c'est ce qui forme l'identité canadienne-française, disait-on, jusqu'au 19e siècle, mais québécoise aujourd'hui au Canada.
Est-ce qu'il y a de l'antagonisme ? Pour finir de comprendre ce lien, parce que là encore, comme on l'imagine, d'un côté, il y a les locuteurs anglais qui vivent leur vie, et de l'autre côté, les francophones qui résistent, parce qu'ils sont moins nombreux.
Alors, oui et non, parce qu'on peut difficilement, on va dire, théoriser cette histoire à l'emporte-pièce. C'est une histoire assez longue, de rapport de force, finalement, entre cette minorité francophone qui est là dans un océan d'anglophonie, et la Confédération canadienne, et plus largement l'anglais tel qu'il est parlé en Amérique du Nord. Donc, Oui, il y a un antagonisme, mais la réalité est beaucoup moins, je dirais, nette et tranchée que ça. Il y a des anglophones au Québec, il y a des francophones à l'extérieur du Québec, au Canada, dans d'autres provinces, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Chez les Acadiens, on parle un français québécois qui n'est pas tout à fait le français québécois des Québécois, par exemple. Donc il y a toute une gamme de réalités concernant le fait de la langue française au Québec.
Mais est-ce qu'il y a une virulence parfois entre les anglophones et les francophones ? Un coup, on m'avait raconté d'une anecdote d'une famille ontarienne, anglophone, qui était venue en vacances du côté du Québec, et ils étaient allés à McDonald's et la serveuse avait refusé de leur parler en anglais alors qu'eux ne maîtrisaient pas le français.
C'est vrai que c'est un sujet qui reste sensible encore aujourd'hui. On peut dire, si on devait donner une tendance depuis quelques décennies, que la virulence, la défense du français est plutôt en décrue, c'est-à-dire qu'on perd en gros un petit pourcent chaque année de locuteurs français au Canada, relativement au reste de la population canadienne. Je pense que la tendance est plutôt à une sorte de pacification aujourd'hui, mais pendant très longtemps, ça a été un sujet extrêmement sensible. Pour toute la période où le mouvement souverainiste québécois était en crue, c'était extrêmement sensible. Le gouvernement québécois a mis en place des dispositifs très coercitifs pour défendre la langue française au Québec et réglementer son usage. Et puis ça s'est, à partir de la fin des années 80, un petit peu relâché, quoi.
Sur la culture, qu'est-ce qu'incarne comme valeur ou comme élément culturel le français ? Il porte quoi ? Il porte peut-être plus les arts, point d'interrogation. L'anglais porterait plus les valeurs du commerce, de l'économie ?
Alors on peut avoir ce point de vue, c'est vrai, un petit peu quand on est au Québec, à Montréal. L'anglais pour les affaires et puis la vie culturelle en VF. En réalité, c'est un petit peu plus, nuancé que ça. Je pense que le français a une importance vraiment fondamentale dans l'émergence d'une culture québécoise, au sens très large. Alors vous avez bien sûr les chanteurs, les écrivains, etc. etc. Et il y a une sorte de vitalité de la pratique de la langue qui fait que quelqu'un comme Danny Laferrière, un de nos immortels, qui est un écrivain qui vient d'Haïti, qui grandit en québécois, au Québec, à ce rayonnement-là aujourd'hui, parce qu'il est propulsé finalement quelque part par ce moteur.
Donc il incarne une valeur culturelle en tant que francophone.
Oui, complètement. Je pense que le reste de... Vous savez, au Québec, on est vraiment dans un îlot au milieu effectivement d'un océan anglophone. Les visiteurs nord-américains, les Canadiens des autres provinces, les États-Unis qui viennent au Québec, ils viennent déguster un petit bout d'Europe. Hein, la ville de Québec, c'est ça, c'est la seule ville fortifiée au nord du Mexique, en Amérique du Nord. On y parle français, on mange bien.
C'est charmant.
C'est charmant. C'est au-delà de la culture et du français, c'est un art de vivre, quoi.
Alors justement, tu évoques un mouvement historique. Le français revient en force au Québec à partir des années 60 avec la Révolution tranquille et l'établissement notamment de la Charte de la langue française en 1977. C'était un peu un mouvement au forceps, puisque les Canadiens francophones faisaient quand même la majorité du Québec, mais c'était les anglophones qui dominaient.
Absolument. Il y avait une domination économique anglophone, politique aussi de la Confédération canadienne. On est dans un mouvement avec la Révolution tranquille, qui dans les années 60 va donner de la marge d'autonomie au Québec, à la province du Québec. On met en place un ministère de la culture dans un premier temps. On va mettre en place dans la foulée l'Office québécois de la langue française, qui est un peu le bras armé justement institutionnel de la défense du français. Et puis la Charte de la langue française dans les années 70. Et là, on a, je dirais, trois décennies qui sont vraiment de combat, quoi, hein, pour défendre le français, en fixer les règles, les usages, et puis avec des courants qui s'affrontent littéralement. C'est un courant endogéniste qui proclame que le québécois est une langue, et puis tu as un courant plutôt exogéniste en matière linguistique qui va dire que non, la référence c'est le français international et c'est ce français-là qui doit dominer finalement au Québec. Et le rôle de l'institution gouvernementale, c'est finalement trouver le compromis entre les deux. Et donc on a des périodes de flux et de reflux de ce rapport de force-là depuis les années 60, quoi.
Pour donner un exemple, jusque dans les années 80, il était interdit d'écrire hot dog dans les parties francophones du Québec, c'est ça ?
Absolument. Partout dans le Québec, jusqu'en 1988, où la Cour suprême du Canada va casser ce dispositif, il y a une obligation, dans ce qui concerne l'affichage commercial, d'afficher exclusivement en français. Donc si tu t'appelles pas chien chaud... Tu te prends
y compris avec le ridicule que ça comporte.
Oui, bien sûr. Bien sûr, ça a donné lieu, je pense, à toute une série de situations très cocasses. Pour donner une idée quand même du degré de sensibilité de la chose, c'est qu'en 88, quand on casse cet arrêt, on n'impose pas non plus le bilinguisme, on réglemente de manière à ce que le français devienne la principale manière d'écrire sur les vitrines, en faisant la place à d'autres langues. Mais voilà, jusqu'en 88, on doit écrire sur sa devanture exclusivement en français.
Alors que le bilinguisme est une réalité fédérale également. Hein.
Bien sûr.
Les deux langues sont langues officielles de la Confédération canadienne.
Et la langue française est la langue officielle de la province du Québec.
Radio Campus, 92.2.
Penchons-nous maintenant sur l'utilisation du français. L'utilisation de la langue a une fin bien précise, autre que simplement opérationnelle, langue de communication, mais une langue pour l'efficacité, une langue pour la séduction, une langue aussi pour l'action. Le français et la politique, le discours politique analysé en compagnie d'un prof en sciences de l'info et de la communication à l'Université de Bourgogne. Et on démarre déjà avec la définition et les particularités du discours politique.
Radio Campus,
c'est ce qu'on vit quotidiennement.
92.2.
Jean-Jacques Boutot, bonjour.
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 Sémiologue, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bourgogne. Avec vous, on va s'intéresser au discours politique, à l'utilisation de la langue dans le discours. D'abord, pour démarrer cette discussion, est-ce qu'il y a une définition du discours politique? Est-ce qu'il y a des choses très précises qui font qu'on reconnaît un discours politique qui le différencie d'autres types de discours?
On pourrait dire un minima, puisque en communication, on réduit souvent le discours. Si on a une vision réductionniste de discours, c'est-à-dire c'est lié à des éléments de langage. Et donc ça veut dire que très précisément, ça peut créer des effets de répétition sur lesquels on reviendra, puisque non seulement le leader politique, mais aussi toute son équipe est censée reproduire ces éléments de langage pour ne pas sortir en quelque sorte du rail argumentatif qui peut être développé. Et puis si on étoffe au-delà de ces éléments de discours, eh bien évidemment, on va entendre par discours toute capacité à construire une argumentation solide, étayé par un programme. Donc chaque élément est important, les éléments de langage, une argumentation développée avec un raisonnement, c'est-à-dire qu'il y a une logique entre les éléments qui figurent dans le programme, et que si on parle d'une politique qui va être plus ou moins liée à la souveraineté de la nation ou pas, liée à l'emploi, il faut voir comment, à partir du thème de l'emploi, on va connecter des thèmes collatéraux et dérouler en quelque sorte, ou tirer le fil de la pelote pour que tout ça soit logique.
Est-ce que le discours politique a une date historique? Est-ce qu'on peut, comme certains, dire le discours politique, cette forme donc d'argumentation née avec les Grecs, et du coup on entend un peu aussi immédiatement sophisme derrière ça?
Oui, c'est vrai, on fait remonter donc à 26 siècles à peu près la rhétorique, le discours politique, c'est-à-dire que le citoyen était dans la capacité lui-même de développer cette argumentation que nous venons d'évoquer. Donc il déléguait ce pouvoir d'argumentation à des experts qui eux avaient cette capacité à développer avec une logique, avec deux éléments importants qu'on dissocie, qui est ce qui relève de l'argumentation, c'est-à-dire du raisonnement logique, et ce qui relève, c'est peut-être plus fort, et ça va revenir dans notre discussion sans doute, non plus de l'argumentation, mais de la persuasion, c'est-à-dire de la capacité de toucher, évidemment, l'auditoire et les interlocuteurs.
Je reviens sur cette histoire d'éléments de langage. C'est une notion qui est assez récente. Enfin, bon, on bascule un peu sur la même question, mais c'est quelque chose d'assez récent. Ça naît avec la
communication elle-même, en fait. En fait, c'est toutes les stratégies de communication. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est que avant l'homme politique, il allait relativement seul s'adresser à la population. Aujourd'hui, avec toutes les instances de communication, non seulement vous avez les grandes tribunes, vous avez les grands forums, mais vous avez aussi toute la production médiatique du discours. Et donc, autour de l'homme politique et de l'équipe, vous avez toute une équipe qui est déléguée et qui va occuper tous les plateaux télé, ne serait-ce que toutes les chaînes d'information en continu. Donc, imaginez que ce soit la cacophonie et qu'autour de tel ou tel homme politique, on ait tel délégué qui aille sur BFM, sur évidemment toutes les chaînes que nous connaissons, RFM, etc., et plus les radios, plus... il faut voir qu'aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas, on aura peut-être... Ce qui explique les porte-paroles. Vous avez 10, 15...
Il y en a
15.
De plus en plus.
Oui, là où on avait un porte-parole, c'est plus possible. Puisque maintenant, il va falloir occuper la scène médiatique. Et aujourd'hui, on peut dire que chaque délégué, chaque leader politique va envoyer sur la scène médiatique 8, 10, 12 délégués du matin au soir. Donc, il faut qu'ils partent avec ces éléments de langage pour tenir quelque chose. Alors, on y reviendra. Par exemple, aujourd'hui, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est ce qui touche comment on traite la question juridique pour la politique de François Fillon.
On y reviendra, effectivement. Mais par rapport à la communication politique, comment est-ce qu'on explique son émergence ? Comment on en est arrivé là ? Est-ce que c'est lié, par exemple, à l'émergence de la télévision, à l'émergence d'une radio, enfin, d'un système médiatique audiovisuel important ?
Oui, oui, oui. C'est très lié au mouvement continu de la communication elle-même. On est passé par des phases complètement troubles, d'une certaine manière. Dans les années 80, par exemple 80, l'élection de Mitterrand avec la force tranquille, on voit, c'est l'époque où la confusion avec le discours publicitaire est très... On fait d'immenses affiches qui occupent les rues, on trouve d'hyper slogans. Séguéla, d'ailleurs, est devenue la figure prototypique de cette communication-là. Donc on voit que là, j'ai envie de dire, la collusion ou les effets d'hybridation avec le monde publicitaire sont très forts. On s'aperçoit que là, on est parti dans un maelstrom qui peut être très dangereux, de confusion finalement de la communication publicitaire, de communication politique avec la publicité elle-même. Donc il va falloir en sortir. Aujourd'hui, on a un petit peu rationalisé les choses, on a séparé un peu les genres, mais on est resté dans le monde de la communication.
On a séparé quand même pour amplifier l'effet.
Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on s'est séparé de la logique publicitaire, mais on est entré dans une logique communicationnelle avec ce qu'elle peut avoir d'artefact d'une certaine manière. C'est-à-dire que plus on parle de transparence, d'authenticité, de lisibilité, de crédibilité, de probité, etc., plus on se place sur un terrain moral, plus on voit en même temps que c'est lié à des éléments de langage. Et que ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la force persuasive devient extrêmement importante et qu'on arrive à ce qu'on peut appeler, ne serait-ce qu'en termes sémiotiques, une manipulation du discours. C'est-à-dire non pas simplement sur un critère de moralité, mais sur une capacité à jouer avec le discours.
Alors justement, pour terminer ce premier tour d'horizon, on pourrait dire le discours politique est d'abord et avant tout un discours anti-spontané. Alors que... On a l'impression qu'à la tribune, un homme politique ou un quidam dans la rue qui développe un discours serait justement sur quelque chose de très personnel, voire de très sensible.
Un bon politique et un bon porte-parole, il doit pouvoir conjuguer une logique de programmation et une logique d'improvisation. On le voit aussi même avec les avocats. Hier, j'écoutais encore l'avocat de François Fillon, Maître Lévy, qui lui arrive aussi avec tout un imaginaire de médiatisation et de politisation, puisque c'est le fils du philosophe. Donc, d'une certaine manière...
VHL.
Donc qui lui-même est devenu un peu comme une marque, d'une certaine manière, ne serait-ce qu'à travers l'acronyme BHL. Bon, il y a un certain nombre de... Donc on voit bien ces effets un petit peu spiralesques de monde qui se renvoie un petit peu la balle. Et on voit que même un bon avocat, et surtout un bon avocat, qui vient aussi dans cette sphère médiatique et politique, donc vous voyez un peu cette sédimentation des discours, l'avocat qui vient à côté de l'expert, avec le journaliste, avec le politologue, il ne manque plus qu'un sportif là au milieu pour nous donner son avis, mais bientôt ça va venir, je pense qu'on pourrait demander à Pogba ce qu'il pense.
Ou à d'anciens qui ont eu des problèmes avec la justice pour témoigner.
Voilà,
ah,
bon,
expert.
Et de dire que finalement tout ça se banalise, que l'histoire se répète.
Voilà, fin de cette Univox Made in Radio Dijon Campus consacrée aux Français dans le cadre du cycle So French initié par notre radio. Ces interviews en version longue et bien d'autres sont podcastables et écoutables sur le site sofrench.campusplus.fr. Fin de ce Univox autour de la langue française. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel Univox.
Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Oui.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.